Lorient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le voile comme marqueur social, quelle est son histoire, quelle est sa mode, son rapport à la religion? Nous en parlons avec Bruno Nassim Aboudrar, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art. Avec un peu de retard, Gaza a connu cette semaine sa rentrée scolaire, dans des conditions particulièrement difficiles, nous dira Nehmat El-Matari de Monte Carlo Dwalia. Également dans cette édition, le regard sur la presse de Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Le port du voile est-il un signe culturel ou religieux? Le voile est-il obligatoire? Doit-il être un simple fichu sur les cheveux ou couvrir entièrement la personne, visage compris? De quelle couleur est-il? Autant de questions que l'on peut se poser, quel que soit l'endroit où l'on habite sur cette planète, pays laïque ou religieux, monde musulman ou pas. Bonjour Bruno Nassim Aboudrar.
Bonjour.
Professeur d'esthétique et de théorie de l'art à l'Université Paris à Sorbonne Nouvelle, auteur de « Comment le voile est devenu musulman », paru cette année chez Flammarion. Alors, d'où vient le port du voile et a-t-il un fondement strictement religieux ?
Il n'a pas de fondement strictement religieux. En tout cas, le port du voile est répandu et attesté dans la Méditerranée depuis, comme on dit, la nuit des temps, en tous les cas très très longtemps avant l'islam. Et la première fois que l'on le rencontre vraiment lié à une question religieuse, c'est pour la religion chrétienne, dans l'épître aux Corinthiens de saint Paul, où l'apôtre des Gentils exige des femmes qu'elles portent le voile à la messe. Tandis que dans l'Ancien Testament, il y a très peu d'attestations du voile et jamais dans un contexte religieux.
Alors, vous l'avez dit, le voile existe depuis avant l'islam, mais que dit le Coran à propos du voile ?
D'abord, il y a un problème de traduction. Le mot voile n'est pas, au sens où nous l'entendons, nous, n'est pas employé dans le Coran. Ce qui est employé, c'est un mot qui veut plutôt dire quelque chose comme écran, toile, voile aussi, mais couverture, rideau. Alors, il est employé d'abord pour séparer la sphère intime de la sphère publique, donc comme un élément de décoration en quelque sorte. Hein, comment. Ensuite, il est recommandé uniquement aux femmes du prophète en présence d'étrangers. Or, les femmes du prophète ont dans le Coran un traitement différent des femmes normales. Et puis, enfin, dans un seul verset d'une seule sourate du Coran, cette recommandation est proposée à toutes les femmes pour des raisons pas du tout religieuses, mais pour des raisons de commodité, en quelque sorte, dont on connaît assez bien le contexte historique.
Alors, de quel voile parle-t-on ? En France, par exemple, on voit de plus en plus de jeunes femmes voilées de pied en cap, avec un drap totalement noir ou parfois violet. Est-ce que c'est le signe d'une pratique religieuse particulière ?
Oui, très certainement, c'est en tous les cas, ça signale une pratique religieuse particulière qui, grosso modo, correspond à ce que l'on appelle, pour faire bref, le salafisme, c'est-à-dire une des innombrables propositions fondamentalistes au sein de la religion musulmane, qui est une religion très vivante et donc extrêmement variée dans ses modalités. Et il y a parmi elles une modalité particulièrement spectaculaire, parce que très visible, qui en passe, entre autres, par des signes vestimentaires très très marquants, comme le voile intégral pour les femmes, la barbe et la kamitz pour les hommes, etc.
Tout ça n'est pas imposé par le Coran.
Non, le Coran ne rentre en aucun cas dans des détails vestimentaires de ce type, et de toute façon, ça relève pratiquement de la mode ou des usages. Et par ailleurs, je voudrais juste souligner le fait que le grand paradoxe du salafisme, en tous les cas en Occident, c'est que ces femmes et ces hommes font image, on les voit, il y a quelque chose de terriblement imagé là-dedans. Or, la religion musulmane se signale par sa méfiance à l'endroit des images, voire son interdiction des images à plusieurs reprises. Et donc, c'est un des paradoxes qui m'intéresse, c'est la manière dont, pour signaler la présence de l'islam, ces femmes se contraignent elles-mêmes à faire une image de l'islam, ce qui est un paradoxe complet.
Alors, est-ce qu'il y a des traditions particulières selon les pays majoritairement musulmans? Porte-t-on le voile de même façon dans les pays du Golfe, par exemple, ou en Indonésie ou au Maghreb?
Le voile est une pratique vestimentaire très liée aux tissus culturels locaux. Donc, les voiles, par le passé, étaient aussi différents que les tenues bretonnes pouvaient être différentes des tenues basque. Donc effectivement, par exemple, au Maghreb, le voile, le haïk marocain ou le sefsari tunisien, étaient des voiles blancs, des couvertures blanchâtres et que l'on ne voit plus du tout.
Et en Indonésie, par exemple, c'est plutôt juste un voile.
En Indonésie, c'était un voile traditionnellement beaucoup plus léger, manifestement inspiré n'est pas le bon mot, mais mêlé aux pratiques hindouistes de sari. Donc c'était plutôt des soiries colorées, noires noir, effectivement, en Arabie Saoudite, plutôt bleu en Afghanistan, manifestement pour de simples questions de teinture. C'est, je répète, il s'agit de choses profondément ethnologiques.
Alors, on voit bien que le voile est lié, y compris pour la religion chrétienne, vous l'avez dit, avec en rappelant Saint Paul, à un positionnement de la femme considéré comme inférieure et que l'on doit enfermer pour la protéger. Pourtant, il y a de nos jours des défilés de mode. C'est pas paradoxal ?
Alors, les défilés de mode sont très paradoxaux. L'infériorité de la femme, c'est un petit peu plus compliqué. Elle n'est pas spécialement attestée dans le corps religieux musulman, dans le Coran. D'une certaine façon, la religion chrétienne insiste beaucoup plus sur cette infériorité. Et le voile chrétien, autrement dit le voile des démoniales, par exemple, est un signe de soumission. Là, c'est explicite. C'est explicite pour Tertullien, par exemple, un père de l'Église au IIIe siècle qui dit le voile est le joug de la femme. Là, on peut pas être plus clair. On n'a aucune trace de ça dans la culture musulmane, aucune trace d'une théorie de l'infériorité de la femme. En revanche, elle est enfermée, ce qui n'est pas marrant non plus, hein, mais c'est autre chose. Elle est enfermée dans des harems, elle est enfermée à l'intérieur de la maison. Il y a toute une structure de l'espace qui est radicalement différente et qui est un espace non mixte. Et le voile est une sorte de truchement de l'enfermement, c'est-à-dire que c'est une sorte de camisole portative. Quoi.
Alors justement, une camisole portative qui sert aussi dans des défilés du voile, ça c'est vraiment paradoxal.
Alors, aujourd'hui, et c'est une des grandes nouvelles, le voile qui n'était pas une image est devenu une image, et le voile qui ne ressortissait pas à la mode dans des pays d'ailleurs qui ignoraient la mode, qui est une affaire fondamentalement occidentale, est devenu, avec l'universalisation, la mondialisation si vous préférez, de la mode, un phénomène de mode qui donne lieu à des défilés, en effet, à une forme aussi de légèreté, de futilité, ces adjectifs entendus de ma part de façon tout à fait laudative d'ailleurs, hein, c'est pas en soi, c'est pas mal d'être léger, au contraire, d'une certaine façon. Mais voilà, il y a maintenant sur le terrain du voile beaucoup de choses, dont certainement de la bigoterie, mais aussi certainement de la coquetterie. Ce sont pas les mêmes, ce sont parfois les mêmes. C'est quelque chose là de très vivant.
Dans les sociétés occidentales, l'abandon du port du foulard a accompagné en général le mouvement de libération des femmes. Est-ce que vous diriez que c'est le mouvement inverse qui est en train de se produire actuellement dans les sociétés musulmanes ?
En tous les cas, le port du voile chez les musulmanes d'Occident ou chez les musulmanes en position d'être libres n'est certainement pas une régression du point de vue de leurs droits sociaux, civiques, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, le voile ne leur soit pas imposé au titre d'une coercition.
Finalement, le fait que pour les hommes, d'imposer aux femmes de se cacher sous un voile, n'est-il pas la démonstration de leur propre faiblesse en tant qu'hommes ?
Alors, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette idée est celle d'un féministe égyptien qui a écrit en 1900, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, un livre sur la libération de la femme, qui s'appelle La libération de la femme, et dans lequel lui, Kassim Amin, il s'appelle, dit ça, il dit exactement ça, il ironise sur le voile, il dit mais après tout, est-ce que l'on est si faible, nous les hommes, ou est-ce que l'on est si désirable pour qu'il faille voiler les femmes, etc. Il a tout un discours très ironique sur les hommes et sur la faiblesse dont ils témoignent en exigeant des femmes qu'elles soient voilées et enfermées.
Merci Bruno Nassim Aboudrar. Je rappelle que vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Comment le voile est devenu musulman », paru cette année chez Flammarion.
Merci.
Bonjour Nermat El Matari.
Bonjour.
Alors nous entendons la voix d'une petite fille que vous avez eue lors de votre émission cette semaine consacrée à la rentrée des classes à Gaza. Que nous dit-elle précisément cette petite fille ?
Cette petite fille, elle est triste parce qu'elle ne peut pas rentrer à l'école, parce qu'elle ne peut pas marcher. Elle était blessée pendant les bombardements israéliens sur Gaza pour 51 jours de bombardement. Et les enfants, ils ont rentré cette semaine à l'école. Mais elle est très triste parce qu'elle voulait aller voir ses copains, ses copines, aller à l'école.
Alors, cette rentrée a eu lieu avec un peu de retard, je crois. Comment s'est-elle passée ? Et cela concerne combien d'enfants ?
Un demi-million. Des enfants, ils sont rentrés à l'école dimanche dernier, et ils étaient contents tous, parce que j'ai parlé avec plusieurs enfants, ils étaient contents, mais en même temps, ils ont peur. Est-ce que c'est fini, la guerre, M? Et où il y a une autre guerre qui va commencer? Et un des enfants, elle m'a dit, c'est triste, parce que je veux vous dire qu'on est habitué maintenant. C'est habituel pour nous voir les misères, voir les bombardements, voir les gens mourir. Nos copains, à côté de moi, il était mort. Sa famille, il était mort. Mais j'espère que la guerre, elle est finie.
Rappelons combien d'enfants sont morts pendant ces bombardements?
Plus que 500 enfants morts et plus que 3300 d'autres blessés.
Alors, il y a des écoles ouvertes. Est-ce que toutes les écoles ont ouvert ou pas?
Non, elles étaient tous presque bombardées. 26 écoles détruites totalement et 258 ouvertes. Mais, vous savez, ont deux services d'école.
Vous voulez dire qu'il y a des enfants qui viennent le matin et d'autres qui les remplacent l'après-midi?
Oui, au lieu de 6 heures d'école, il y a 4 heures d'école le matin et d'autres parties, ils viennent l'après-midi. 4 heures aussi. Et il y a surpeuplé, ça veut dire 55 élèves par classe.
Donc surpopulation des élèves dans les classes.
Oui.
Alors comment les enseignants ont-ils pu commencer leur classe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait un service normal? Ils ont appris l'histoire, la géographie, etc.
Non. La première semaine, c'est pour les déchargements psychologiques. Ça veut dire des ateliers, des jeux, des chansons, des musiques. Juste pour parler avec les enfants. Parce que vous savez, ils étaient détruits. Et psychologiquement. Et il y a aussi des médecins qui viennent parler avec eux pour voir qui était le plus éteint. Et le plus éteint, les enfants les plus éteints, ils vont être à part. Et ils vont travailler avec eux toute l'année. Et il y a aussi les mères qui m'ont parlé aussi. Et ils n'ont rien. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien. Et il y a l'UNICEF aussi qui aide beaucoup, mais ce n'est pas assez.
Et dans les écoles, il y a de l'eau, il y a de quoi faire la classe? Non.
Je rigole parce que c'est pas drôle, mais vous savez, il y a la moitié de classe, l'autre moitié peut-être elle est détruite.
Les glaces sont explosées.
Les glaces sont explosées, mais il essaye faire le ministère d'éducation, il essaye quand même arranger les choses petit à petit.
Donc une rentrée des classes malgré tout à Gaza.
Voilà, ils ont insisté qu'il y a l'école, ils ont insisté d'entrer à l'école, et les enfants ils sont très contents avec. Toutes les problèmes psychologiques et les problèmes aussi économiques qu'ils ont, mais ils sont très contents de rentrer et qu'ils ont fini une période qui ne revient pas une autre fois. Je veux dire que la guerre, elle est finie et espérons qu'il n'y a pas d'une autre guerre.
Merci Nermat El-Matari, journaliste et productrice d'une émission quotidienne sur Monte Carlo Ndoualiya consacrée aux questions de société.
Merci.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, une démission au sein du gouvernement Netanyahou fait la une de la presse en Israël.
Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur Gideon Sar a présenté sa démission à la fois du gouvernement et de la Knesset. Il annonce qu'il veut marquer une pause dans sa carrière politique. Alors Eric, il faut expliquer que Gideon Sar était considéré comme un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou au sein de leur parti, le Likoud, un homme extrêmement populaire donc dans cette formation politique, et il est devenu récemment le rival de Netanyahou. Rien ne pousse dans l'entourage du Premier ministre, titre un quotidien. Netanyahou provoque la fuite des meilleurs, souligne un autre journal, et on peut trouver la photo de pas moins de 6 figures de tête du Likoud, ceux qui étaient surnommés les princes du parti, qui ont préféré se retirer. Mais attention, soulignent plusieurs éditorialistes, Gideon Sar a bien l'intention de revenir et en force. C'est une véritable menace pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Alors il faut rajouter, Michel, que cette affaire serait liée aux délicates relations entre la presse et le pouvoir.
Une belle histoire d'amour, la presse israélienne indique que l'un des motifs qui a provoqué le départ du ministre de l'Intérieur est lié à son épouse, Geoula Even. Elle est journaliste à la première chaîne de télévision israélienne, une chaîne du service public. Et il y a quelques jours, elle s'est vue interdire d'interviewer des politiciens pour conflit d'intérêts. Alors avec la démission de son mari, elle a aussitôt été réintégrée à son poste.
Et en général, c'est l'inverse qui se produit, notamment en France. Alexandre, la presse arabe est méfiante vis-à-vis de la coalition contre l'organisation de l'État islamique, coalition qu'elle examine à la loupe.
Oui, tout à fait. La presse rapporte les propos du secrétaire d'État américain John Kerry et du secrétaire à la Défense Chuck Hagel au Congrès américain sur une large participation arabe dans la lutte contre le mouvement d'État islamique Daesh en arabe. Alors plusieurs éditorialistes font les comptes et arrivent à la conclusion qu'aucun État arabe n'a accepté d'engager de troupes au sol ou même d'accorder un soutien aérien contre Daesh, si ce n'est l'Irak et la Syrie, qui y ont été en fait forcés, puisque ce sont les djihadistes qui les ont envahis. Quant à l'armée libre syrienne, que les Américains comptent armer et entraîner, elle constitue actuellement la faction la plus faible de la rébellion contre Bachar el-Assad, et puis restent les Kurdes, mais les Arabes, qui craignent les tentations indépendantistes du Kurdistan, soulignent aussi que les Peshmerga manquent d'armes et de munitions, et puis les grands États voisins comme l'Iran a été exclu, et la Turquie, elle, ne veut rien faire.
Et puis plusieurs articles, Alexandre, analysent la perception de l'État islamique dans les pays du Golfe.
Oui, il souligne que si les États sont farouchement opposés aux extrémistes de Daesh, une partie importante de leur opinion ne l'est pas. Il souligne même que nombreux sont ceux qui, en Arabie Saoudite, soutiennent Daesh. Des Saoudiens qui pensent que Daesh applique un islam pur, en vertu duquel il n'y a que les fidèles et les infidèles, d'où la nécessité de changer complètement de discours religieux que réclament de nombreux éditorialistes.
Alors Alexandre, faut-il dire État islamique ou Daesh ? Apparemment, les journaux arabes reviennent sur cette polémique occidentale, va-t-on dire, sur le nom de l'organisation terroriste.
Oui, puisque Daesh, c'est ISIS pour les anglophones, EIIL pour les francophones, et donc Daesh pour les arabophones. Alors les journaux applaudissent l'initiative française de bannir le nom État islamique et de reprendre la terminologie arabe comme le réclamaient les institutions religieuses musulmanes, des institutions qui estimaient que donner le qualificatif islamique à des coupeurs de tête était une insulte à l'islam. Alors rappelons qu'en cas de traduction comme Daesh, donc Al-Qaïda deviendrait la base et le Hamas enthousiasme.
Michel Paul, on en parle peu, mais depuis le début de l'été, l'agitation se poursuit côté oriental de Jérusalem.
L'intifada des enfants, c'est le titre du quotidien Haaretz. Plus de 250 arrestations de mineurs en moins de 2 mois. Âgés de 9 à 18 ans, ils représentent le tiers de ces arrestations pour des délits qui vont du simple jet de pierre et jusqu'aux incendies de stations-service.
Et puis toujours dans Haaretz, Michel, un article d'opinion à retenir.
Oui, le professeur Zev Sternel, un politologue de renom, affirme que ce n'est pas Israël qui est détesté, mais le colonialisme. Une majorité d'Israéliens pense que le problème est lié à une question d'antisémitisme. Or, souligne l'universitaire, la critique d'Israël a débuté lorsqu'il s'est avéré que l'État hébreu n'avait pas l'intention de se retirer des territoires conquis en 1967. Une évidence pour certains, mais Eric, ce genre de position est très rare dans la presse israélienne.
Et merci de nous en faire part. Les 100 jours du président Sissi en Égypte, Alexandre, les journaux arabes tirent un premier bilan.
Oui, un bilan qui est plutôt positif pour la plupart des journaux arabes. Des journaux qui, il faut le rappeler, ne comprennent pas de porte-parole des frères musulmans pour lesquels le président Sissi reste le chef d'un putsch sanguinaire. Alors au niveau intérieur, les journaux estiment que Sissi n'a pas hésité à lever partiellement les subventions et qu'il a lancé un projet très populaire, le nouveau canal de Suez. Et au niveau étranger, il a réalisé la trêve à Gaza et réintégré l'Égypte dans l'Union africaine. Mais, soulignent les journaux, les défis sécuritaires et économiques restent immenses.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, ce sont les photos de bijoux trouvés à proximité des chambres à gaz du camp d'extermination de Sobibor en Pologne, dont l'emplacement exact a été découvert cette semaine.
En effet, merci Michel, merci Alexandre. C'est Ludivine Amado qui a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.